Partie 5. Mobiliser les émotions. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Lorsque Blaise Pascal formule cet aphorisme philosophique, c'est avant tout pour évoquer le mystère de la foi en Dieu. Mais certaines idées ont un pouvoir d'évocation tel qu'elles en viennent à résonner bien au-delà de la sphère où elles sont nées. C'est ainsi que, dans un retournement singulier, certains tourtereaux déboussolés par les sentiments qui les traversaient ont pu trouver, dans cette pensée, une métaphore lumineuse de la passion amoureuse. En tant qu'oratrices ou orateurs, il nous revient désormais de nous en emparer. Si nous avons à cœur d'emporter la conviction, nous devons nous faire une raison. Nous ne pourrons pas toujours nous reposer sur notre argumentation. Il faudra aussi parfois susciter des émotions. Aristote, déjà, considérait le pathos comme une dimension constitutive de la rhétorique. Pour lui, il était à la fois légitime et nécessaire de s'appuyer sur les affects de l'auditoire pour le convaincre. Depuis, cette question s'est doublée d'une inextricable dimension éthique. Lorsque l'on accole conviction et émotion, d'autres termes rôdent, tout proches, la persuasion, voire la manipulation. Une question surgit dès lors, arracher l'adhésion en s'adressant aux affects plutôt qu'à l'intellect, est-ce acceptable ? Pour le savoir, nous allons devoir voyager loin, nous aventurer sur le terrain de la psychologie cognitive, étudier le fonctionnement du cerveau et interroger jusqu'au concept même de raison. Ce n'est que dans un second temps que nous pourrons, en pratique, apprendre à utiliser les émotions comme un outil au service de la conviction. Chapitre 1. Un vecteur de conviction. La persuasion. Voilà un mot que, depuis le début de cet ouvrage, nous n'avons jamais employé. Soigneusement, nous l'avons contourné, avançant comme s'il n'existait pas. Il va bien falloir, pourtant, s'y confronter. Selon une idée couramment répandue, persuader s'opposerait à convaincre. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agirait d'une activité permettant de faire adhérer les individus aux propositions que nous leur soumettons. Mais, alors que la conviction y parviendrait par le biais d'arguments et d'informations, la persuasion aurait, elle, recours aux affects et aux passions. Convaincre serait le domaine de la raison, persuader celui de l'émotion. L'une serait rigoureuse, l'autre davantage fallacieuse. Nous allons voir que les choses sont en réalité un peu moins manichéennes. 1. Raison et émotion. La distinction entre convaincre et persuader n'est au fond que l'avatar d'une idée aussi vieille que la philosophie elle-même, le dualisme entre raison et émotion. La raison contre les émotions. Platon, déjà, dans son Phèdre, comparait l'âme à un chariot tiré par deux chevaux ailés. L'un, paisible et docile, la volonté. L'autre, fougueux et rebelle, les passions. Quant au cocher, il est notre raison. S'il ne tenait qu'à lui, aidé du cheval volonté, il chercherait à s'élever vers le beau, le bien et le vrai. Mais il est gêné par le cheval passion qui tire sans cesse l'attelage vers d'éphémères et futiles plaisirs terrestres. Descartes, lui, opposait l'âme, siège de la raison, au corps, lieu des passions et des sentiments. Les stoïciens, et notamment Épictète, considéraient de leur côté les passions comme des égarements, empêchant de prêter l'oreille à la raison. Certes, confessons-le, ces trois philosophies sont en réalité moins tranchées sur cette question que ne le suggère cette succincte présentation. Il n'empêche que, d'une manière ou d'une autre, elles en viennent toutes à opposer en nous l'émotionnel au rationnel. Cette opposition entre raison et émotion se retrouve chez les rhétoriciens latins, avec une nuance d'importance. Plutôt que de la déplorer, ils choisissent de s'en accommoder et même de l'exploiter. Ainsi, Cicéron note-t-il que « rien n'est plus important pour l'orateur que d'exciter en celui qui écoute de telles émotions qu'au lieu de suivre le jugement et la raison, il cède à l'entraînement de la passion et aux troubles de son âme. » Quant à Quintilien, il est encore plus explicite. Faire violence à l'esprit des juges et le détourner précisément de la contemplation de la vérité, tel est le propre rôle de l'orateur. Le juge, pris par le sentiment, cesse totalement de chercher la vérité. Pour eux, le pathos est une dimension si puissante qu'elle pourrait disloquer les facultés critiques, s'imposer aux auditeurs et capturer leurs convictions. Le postulat d'un être humain scindé entre raison et émotion a culminé, au cours du XXe siècle, avec les sciences économiques. Dans le modèle qui s'y impose, l'individu est conceptualisé comme un homo economicus, qui cherche à satisfaire au mieux ses préférences, compte tenu des contraintes qui s'imposent à lui et des informations dont il dispose. Tous autant que nous sommes, nous arrêterions nos décisions au terme d'un calcul entre les coûts, les bénéfices et les risques. Pourtant, les économistes observent bien que, en pratique, il nous arrive fréquemment de nous comporter de manière irrationnelle. Nous prenons des risques inconsidérés ou, à l'inverse, restons paralysés malgré des conditions favorables. Nous surestimons ou sous-estimons fréquemment nos chances de succès. Nous agissons au mépris des probabilités. D'où vient-il alors que certains de nos choix se révèlent concrètement contraires à ce qu'un calcul d'utilité devrait nous dicter? Les coupables sont toutes désignées, ce sont les émotions qui s'introduiraient par effraction et viendraient troubler la belle harmonie de la raison. En un demi-siècle toutefois, la recherche en psychologie a montré que cette vision était erronée. L'irrationalité comme norme. À la fin des années 1960, deux jeunes chercheurs en psychologie, Daniel Kahneman et Amos Tversky, se livrent à une expérience étonnante. Lors d'une conférence organisée par la Société de mathématiques en psychologie, ils soumettent plusieurs dizaines de leurs collègues à des problèmes de probabilité. Ceux-ci sont inspirés de situations réelles que l'on rencontre classiquement lors d'un travail de recherche. Les réponses attendues ne sont pas des analyses fines, mais plutôt des réactions spontanées. À la stupéfaction des deux psychologues, la majorité des participants tombe dans tous les pièges. Parmi eux se trouvent pourtant d'excellents mathématiciens et notamment les auteurs de deux manuels de statistiques. Bien sûr, s'ils avaient pris le temps d'étudier soigneusement chacun des problèmes, ils les auraient résolus sans difficulté. Mais dès lors qu'ils répondent instinctivement, ils se fourvoient autant que des étudiants. La conclusion à en tirer est pour le moins déroutante. Même les statisticiens ont de mauvaises intuitions en statistique. Malgré l'absence de tout engagement émotionnel, ils raisonnent impulsivement, de manière irrationnelle. Cette expérience initiale a constitué le point de départ, pour Daniel Kahneman et Amos Tversky, de trois décennies d'études des raisonnements humains. Ils finissent par faire une découverte majeure: notre cerveau ne fonctionne pas tout le temps de la même manière. Pour traiter les informations qui lui parviennent et en tirer des conclusions, il utilise deux types de processus différents: la pensée délibérée ou analytique est la pensée intuitive ou heuristique. La pensée délibérée est activée lorsque nous nous trouvons face à des problèmes complexes ou des situations nouvelles. Notre cerveau est confronté au défi d'émettre un jugement inédit ou de trouver une solution originale. Pour cela, il va agréger les informations à sa disposition, activer ses ressources analytiques et focaliser son attention sur la tâche. L'ensemble du processus est remarquablement efficace. Il nous permet d'aboutir à la meilleure réponse possible selon le temps, l'endurance et les connaissances dont nous disposons. Mais il est aussi particulièrement lent et éprouvant. Or, au quotidien, il ne se passe pas une heure sans qu'il nous faille émettre un jugement ou acter un choix. Nous sommes confrontés en permanence à des décisions qui, tout en paraissant anodines, engagent en réalité de très grandes quantités d'informations. Si nous activions à chaque fois notre pensée délibérée, nous serions constamment saturés. Chaque tâche puiserait abondamment dans nos ressources, si bien que nous finirions probablement par nous écrouler de fatigue bien avant la fin de la journée. Pour l'éviter, notre cerveau a trouvé la parade. Il emprunte le plus souvent des raccourcis. Afin de conserver une pensée fluide et naturelle, il se contente de puiser parmi les informations aisément accessibles et les habitudes bien ancrées. Les réponses s'imposent à nous comme évidentes, limpides, instantanées, sans même que nous ayons eu à les chercher. L'ensemble de ce processus se déroule en outre de manière automatique et inconsciente. Nous croyons réfléchir rationnellement, alors qu'en réalité, nous pensons intuitivement. Ces opérations de simplification de la pensée, Daniel Kahneman et Amos Tversky les appellent des heuristiques de jugement. Elles consistent à remplacer les questions trop compliquées par d'autres, plus aisées à manipuler. Ou, comme le dit Kahneman lui-même, pour définir techniquement l'heuristique, on peut dire que c'est une procédure simple qui permet de trouver des réponses adéquates, bien que souvent imparfaites, à des questions difficiles. Prenons un seul exemple. Imaginons que nous soyons invités à nous positionner sur la question « La société devient-elle de plus en plus violente ?» Il s'agit d'une interrogation incroyablement complexe. Pour y répondre sérieusement, il faudrait que nous disposions d'une connaissance fine des statistiques de l'insécurité, que nous parvenions à les envisager sans nous laisser influencer par notre vécu personnel et que nous soyons capables de les mettre en perspective avec les époques précédentes. Autant dire, une intense réflexion, sinon même un authentique travail de recherche. Que fait alors notre cerveau ? Sans que nous nous en rendions compte, il lui substitue une autre question, plus simple. Par exemple, fais-je confiance aux individus selon qui l'insécurité serait en train d'augmenter ? Ou encore, ai-je souvent entendu parler d'insécurité dans les médias ces derniers temps ? Nous venons d'avoir recours à une heuristique de jugement. En elles-mêmes, ces heuristiques n'ont rien de négatif. Elles ne sont au fond qu'un moyen de simplifier la complexité débordante de la réalité. Le plus souvent, elles nous permettent de parvenir à une décision raisonnable en ayant eu à déployer un effort minimal. Mais elles peuvent aussi nous faire tomber dans des biais et, ce faisant, nous mener à des conclusions sous-optimales, voire erronées. C'est exactement ce qui s'est produit avec les statisticiens de la Société de mathématiques en psychologie. Sommés de répondre spontanément, ils n'ont pas eu le temps de déployer une pensée analytique, se sont rabattus sur ce que leur système intuitif leur a soufflé et n'ont pu éviter les pièges qu'un raisonnement délibéré aurait permis de distinguer. Il faut prendre conscience de l'importance de ce résultat. Il prouve que l'émotivité n'est pas la seule responsable des comportements déviants de ce qu'une grande partie des économistes estime être la rationalité. Notre raison elle-même peut se révéler irrationnelle chaque fois que nous nous laissons guider par notre intuition. Pour avoir montré qu'il était déraisonnable d'attendre des individus qu'ils se comportent rationnellement, Daniel Kahneman a obtenu en 2002 le prix Nobel d'économie. Amos Tversky l'aurait reçu avec lui s'il n'était pas décédé 6 ans plus tôt. Ce n'est toutefois pas la psychologie, mais bien les sciences du cerveau qui porteront le coup de grâce à ce vieux modèle dualiste séparant intellect et affect. La neurologie va en effet montrer que non seulement la raison n'a pas besoin des émotions pour se révéler irrationnelle, mais de surcroît, ce sont les émotions qui permettent à la raison de fonctionner rationnellement.